Ok, shalom à tous et à toutes. Yafemod, on était en plein Agdara, en pleine définition de ce que est la Emouna. Et on va essayer de continuer dans l'Agdara avant de continuer le texte du Kuzari. Aujourd'hui, en principe, on doit continuer le texte du Kuzari et arriver à l'Agdara, et arriver au Yud Gimel Tetva. Alors, on y va. On était arrivé, on avait expliqué que tout l'union de la Emouna, c'était, il y a plusieurs possibilités ou plusieurs moyens de pouvoir connaître les choses. C'est-à-dire, il y a un moyen qui s'appelle le Sehel, l'intellect. Avec l'intellect, je vais pouvoir connaître les choses. Est-ce que vous voyez droit, vous? Vous voyez ce que j'écris, c'est droit?
On voit droit.
Mais c'est parce que moi, je vois sur mon écran à l'envers. Et il y a un autre chemin de connaître les choses, à part l'induction, la déduction, etc., c'est-à-dire à part utiliser l'intellect, utiliser son cerveau pour pouvoir comprendre les choses. Il y a une autre façon de connaître les choses qui s'appelle le derech haregesh. C'est-à-dire derech haregesh. Qu'est-ce que ça veut dire derech haregesh? Ça veut dire par les émotions. Les émotions, le monde émotionnel, je vais pouvoir sentir des choses. Je rappelle que le mot regesh, justement, c'est grâce aux émotions que je vais pouvoir être en contact avec les choses extérieures, vivre les choses qui vivent, rencontrer les choses extérieures qui vont éveiller en moi certaines émotions, et je vais pouvoir donc connaître les choses aussi au niveau de l'émotionnel. Ce qui dérive de l'émotionnel, c'est bien sûr les cinq sens, c'est-à-dire qui, grâce aux cinq sens, bien sûr, je vais pouvoir arriver au phénomène, je vais pouvoir rencontrer les choses du monde extérieur, et comme ça, l'homme va pouvoir connaître les choses extérieures. Maintenant, le Rav Kook vient, il dit, si tu te poses la question, qu'est-ce que c'est la Emouna? La Emouna, ena lo sechel velo regesh. La Emouna, ce n'est ni le sechel, ni le regesh. C'est ni le côté intellectuel, c'est ni le côté émotionnel. Et là, la Emouna, c'est un troisième chemin. C'est un troisième chemin qui est même essentiel, c'est au-delà du sechel et du regesh, mais là, pour l'instant, je le mets en dessous. Et là, c'est le chemin de la Emouna. La Emouna, ce n'est pas penser quelque chose, ce n'est pas ressentir quelque chose, c'est vivre la chose dans laquelle j'ai la Emouna. C'est vivre la chose dans laquelle j'ai la Emouna. Lorsque je parle que j'ai la Emouna dans cette chose, c'est je vis cette chose. Vous savez? Maintenant, lorsqu'on parle du verbe, on avait expliqué « Léa Amin ». Le amin, qui veut dire qui est un actif, c'est non seulement je vis, mais je réalise cette chose-là. C'est-à-dire, je réalise cette chose-là. Et on avait illustré ça par une phrase très simple. On avait dit que le mot emuna venant du mot oman, venant du mot qui veut dire artiste, alors nous pouvons dire que à omanut, l'œuvre d'art, Ma'amina, elle est Ma'amin, Ba'oman. L'artiste. Oh, pour l'instant, on ne va pas rentrer dans les règles de grammaire. Je mets le mot être entre parenthèses parce qu'on expliquera un jour pourquoi il y a une différence. Mais en tout cas, Aomanut, c'est-à-dire l'œuvre d'art, Ma'amina est Aoman, elle réalise l'artiste. Et on s'était posé la question, quelles sont les choses chez nous dans lesquelles on a la Emouna? Quelles sont les choses chez nous dans lesquelles on a l'Emouna? On avait répondu que dans notre Havaya, on est Ma'amin et Havaya chez l'ami. On est Ma'amin. La Havaya, c'est quoi la Havaya? L'existence.
L'existence.
On a en nous une certitude qui est au-delà de tous les doutes que nous existons. Chacun de nous a cette conscience-là, ce n'est même pas une conscience intellectuelle, ce n'est pas une conscience émotionnelle, c'est quelque chose qui relève d'une certitude de vie. Notre conscience que nous existons. Le Ramban Nachmani dira, si une personne n'a pas cette conscience qu'il existe, au niveau psychologique, il est dans une situation très, très, très grave. Donc, quand on parle de la Emouna, on va dire « Ani Ma'amin » que moi j'ai la émouna, que moi je réalise, que moi je dévoile, et ça me remplit de certitude. Ani ma'amin et havaya. Je réalise la havaya. La havaya étant l'existence. Ne pas confondre avec havaya. Havaya imchet, c'est l'expérience. Havaya, c'est l'expérience. Très utilisé en hébreu, un peu moins en français, mais en anglais, c'est experience, c'est tout le temps là. On vive les choses, une expérience, apprentissage de vie, expérience, havaya. Mais là, on parle de havaya, d'existence. L'existence qui vient vers moi et qui me remplit de certitude. Est-ce que jusque-là, je suis prêt à répondre aux questions pour pouvoir avancer? Question directement en rapport avec ça. Est-ce que vous comprenez ce que je dis jusqu'à maintenant?
Oui.
Oui, oui.
Et c'est là. Maintenant, lorsque, de la même façon qu'on avait expliqué que la lettre à Élise, elle est Ma'amina à Beethoven, elle réalise Beethoven, elle est entièrement la réalisation de ce que Beethoven a mis dans son œuvre. Alors, on peut dire que la lettre à Élise, elle est Ma'amina Beethoven. Qu'est-ce qu'elle est Ma'amina de Beethoven? Ce qu'il a voulu dévoiler dans cette lettre à Élise. Et nous, on est arrivé à vouloir donner un nom à Ani Ma'amin, à vouloir donner un nom, faites très attention, à vouloir donner un nom à la source de cette Havaya, à la source de la Havaya, à la source de l'existence. Le Ham Israël est le seul à pouvoir connaître. Connaître dans son sens le plus plein, le plus parfait. Connaître qui est la source de l'existence. C'est-à-dire? Non, on est à... Je vous écoute.
Des fois, on vit des choses, on n'a pas l'impression que ça correspond à ce qu'on veut. Ou, à, je ne sais pas, Anima Amin, Be Avaya. Des fois, on a l'impression que la Avaya qu'on vit, elle ne correspond pas à ce que...
La première définition, c'est la première des choses, c'est cette conscience d'être en vie, cette conscience de vivre. Cette conscience d'être vie, ça relève du chouch à Emouni. Ça relève du sens qui s'appelle Emouna. On fait la différence, vous faites la différence entre des choses que vous voyez, des choses que vous sentez, des choses qu'on vous dit, des choses qu'on vous prouve intellectuellement et le fait même que vous vivez. C'est sûr. C'est deux consciences complètement différentes. C'est vrai que dans les écrits du Rav Kook, il appelle ça le Chouch HaEmouni. Chouch, il utilise le mot sens. Mais les élèves expliquent, du Rav Kook explique qu'il a utilisé ça parce qu'il n'y a pas d'autre. C'est une faculté de la Emouna. C'est un Chouch. Mais ce n'est pas parce qu'on m'a prouvé que j'existe que j'ai ce sentiment d'exister. Ce n'est pas parce que je touche que j'existe, alors j'ai ce sentiment d'exister. Et là, c'est au-delà de tout ça. C'est-à-dire? Donc, tout sujet dont je prétends avoir de la Emouna, c'est quelque chose que je vis, sur lequel il n'y a aucun doute. Rappelez-vous toujours, en parallèle, on a dit Emouna, Amen, Amen, Emet, Emet, vérité, c'est du 1000%. Personne n'a un doute de vivre. La grosse kushia, la grosse difficulté, c'est si personne n'a un doute qui vive, c'est très bien, mais quel rapport avec Hachem? Alors, je vais vous répondre une réponse. Qui est vrai et fausse, c'est pour l'instant, il n'y a aucun rapport. Quel rapport avec la cacheroute? Aucun rapport. Quel rapport avec un chapeau, des péotes? Aucun rapport. Pour l'instant, ce discours, tu peux le donner même à un goy, à l'expliquer que la Emouna, c'est être ma'amin la havaya. Maintenant, je vais aller plus loin que ça. Chaque hové, c'est-à-dire, il est ma'amin et ta havaya. C'est quoi chaque hové, ma'amin et ta'avaya? Chaque existant existe de l'existence. On n'a rien dit. C'est-à-dire, tout le monde est d'accord sur ça. Maintenant, pourquoi ça paraît très, très bizarre? Parce qu'on se pose des questions, et les questions, elles viennent après, lorsque l'existence est là, on se pose des questions. Mais le fait qu'il y ait cette existence, elle est claire pour tous. Qu'est-ce qui est très fort? C'est que tout le monde est d'accord que l'existence, elle est 1, 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 10. L'existence, elle est 1, 2, 3, 4, 5 ou 10 dans la conscience humaine. L'existence, elle est qu'une.
Une.
Elle est qu'une. C'est pour ça que nous, quand on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, c'est pas pour dire que Hashem est un. C'est évident, c'est une évidence. Et là, que de ce un, même lorsqu'il va avoir la multiplicité des êtres, ça va rester vers un seul et unique projet. C'est-à-dire, alors que nos yeux nous disent l'inverse, alors que nos sentiments nous disent l'inverse. Ken, je vous écoute.
Vous m'entendez? Oui. Quelle différence, j'ai du mal à me l'expliquer vraiment, il y a entre unicité et unique?
Unicité, c'est dans le sens que tout converge vers le 1. Tout converge vers le même projet. Maintenant, on va essayer de donner un nom à la source de cette existence-là. En ivrite, on appelle ça Mekor Achaim, la source de la vie, la source de l'existence. C'est ça? Maintenant, on avait fini, on avait parlé de ça, mais très important d'expliquer, c'est qu'on donne des noms seulement à la relation que j'ai par rapport aux choses. C'est-à-dire, pour moi, vous êtes des personnes, des étudiants. C'est-à-dire, des étudiants du Sefer HaKuzari. Comme ça, je vous appelle. Il y a étudiant 1, étudiant 2, étudiant 3, etc., etc. C'est le nom que je vous donne. Maintenant, je ne vous connais pas en tant que parents, je ne vous connais pas en tant que frères et sœurs, on n'a pas cette relation. La relation qu'on a entre vous et moi, c'est d'étudiant, c'est-à-dire de partager une étude, partager des connaissances. Bien fait, Maud. Le nom de la chose indéfinissable que je ne peux pas définir, je ne connais pas, mais la relation que j'ai avec la chose indéfinissable, une chose indéfinissable, je donne l'agdara de l'indéfini, en hybride on appelle ça ensof, l'infini, c'est-à-dire la définition que je vais donner, c'est en fonction de la relation que j'ai avec cet infini. Comment s'appelle la relation que j'ai avec cet infini? C'est une relation qui donne l'existence, qui me donne la havaya. Alors, on a expliqué. Ensof ou ensof? On ne peut pas dire, regardez dans la phrase. Quand je dis ensof, ça veut dire incompréhensible, illimité. Donc, je ne peux pas dire il est la source de vie. D'accord. Il y a fait. Mais qu'est-ce que je peux dire? Que du Mekor Achai, la source de vie vient du Ensof. Ah bon. C'est-à-dire que la vie que je reçois, elle vient du Ensof. Mais comment je vais appeler l'action? L'action. Parce que la vie, je ne sais pas d'où elle vient. Je vous ai dit, on nous a offert à la Yeshiva, l'encyclopédia universalis. Tu cherches le mot vie, ils ne savent pas d'où vient la vie. On parle de la vie lorsqu'elle est, mais l'existence, d'où vient l'existence, on ne sait pas. Et là, on va dire anima amin be yud kevavke. C'est quoi yud kevavke? C'était la grande question de Paro. On est bientôt Pessah. La première des choses que Moshe va dire à Paro, il va lui dire yud kevavke, c'est lui qui m'a envoyé. Et là, Paro va répondre mi yud kevavke. Qui c'est ce yud kevavke? Asher eshma bekolo, dont je dois écouter la voix. Pire que ça, ou plus grave que ça, le Zohar HaKadosh, il dit la chose suivante. Il dit, vous verrez dans le texte, dans la paracha de Shemot, Vaera et Bo, on voit qu'il y a les cinq premières makot, les cinq premières plaies, il y a marqué Vaïchazek, Paro, Chizek et Libo, c'est que lui, il a endurci son cœur. Paro endurcit son cœur. À chaque plaie, il s'endurcit. Les cinq dernières plaies, il y a marqué Vaïchazek, Hachem et Lev Paro. Les cinq dernières plaies, c'est Hachem, Yudke Vavke, qui endurcit le cœur de Pharaon. Et le Zohar dit, non, c'est toujours Paro qu'endurcit son cœur. Mais qu'est-ce qu'il endurcit à ne pas vouloir libérer le peuple d'Israël? C'est parce qu'il ne peut pas libérer le peuple d'Israël pour un Dieu qu'il ne connaît pas, pour une chose qu'il ne connaît pas. C'est comme si je vous dis, au nom de blablabla, bla bla bla, il faut donner des millions de shekels. C'est qui blablabla bla bla bla? Tant que je n'ai pas la connaissance de blablabla, je ne pourrais pas faire cette action. Imaginez Pharaon, il ne peut pas accepter de libérer le peuple d'Israël au nom d'un Dieu qu'il ne connaît pas. Lorsqu'il va être dans Yam Souf, qui a été déchiré, Yam Souf, ça veut dire quoi Souf? C'est un remèze, une allusion au mot Sof. Au mot Sof. Sof, ça veut dire la fin. Lorsqu'il est arrivé, il a vu que cette mer, elle a été, on a déchiré la fin. On a déchiré le monde fini de la nature. On a déchiré le monde déterminé de la nature. Alors, il a compris que le dévoilement le plus grand du Ein Sof dans ce monde-ci, c'est Yud Kevavke. Et il va dire, Micha Mocha Ba'elim, qui est parmi toi les dieux? Qu'est-ce qu'on dit? Hachem, Yudke Vavke. Donc là, il va connaître, il va commencer à apprendre la connaissance de ce Yudke Vavke. Le ridouche du Ham Israël. Le but ultime du Ham Israël, ce qu'il doit apporter de nouveau dans ce monde, c'est Yudke Vavke, c'est ça. C'est pas Elohim, c'est Yudke Vavke. Même Avraham Avinu ne le connaissait pas, même Yitzhak ne le connaissait pas, même Yaakov ne le connaissait pas. Le seul qui est porteur et qui est capable, c'est la nation d'Israël qui est capable, qui a une relation avec Yudke Vavke. C'est-à-dire, comment on a traduit Yudke Vavke? Yudke Vavke, on l'a traduit par le verbe lehavot. Lehavot, qu'on écrit. Lehavot, qui veut dire donner l'existence. Donner l'existence. Et on a dit au futur, ha-have, te-have, yud-ke-vav-ke. Je donnerai l'existence, tu donneras l'existence, yud-ke-vav-ke, il ne cesse de donner l'existence. Maintenant, c'est le pshat du pshat, le sens le plus basique de basique pour essayer d'apprendre quel est ce nom-là. La source de notre havaya, la source de notre existence. Et on va dire, Ou mehavekol. Il donne l'existence à tout. Ou mehavekol. Il donne l'existence au tout. Il est la source de tous les existants. Et donc, nous avons la emuna dans ce Yudke Vavke. Nous avons la emuna dans ce Yudke Vavke. Qu'est-ce que ça veut dire emuna? Nous vivons pleinement la réalisation du Yudke Vavke. Dans quoi? Dans ma vie. Ce n'est pas de la poésie, hein. dans mon existence, dans la certitude de cette existence. Allez, question. Même les personnes qui n'ont pas la caméra, vous pouvez poser des questions, et c'est même peut-être plus facile.
Rav, ça serait juste pour préciser quelque chose en moi. Si j'ai bien compris, le fait que j'existe... il n'y a aucun doute là-dessus. Mais par contre, la façon dont j'appréhende ce que j'expérimente dans la vie, ça peut être effectivement une illusion ou c'est quelque chose qui m'est propre et qui...
Non, maintenant, il peut avoir des emunot, l'onechonot. Il peut avoir des choses, des expérimentations de vie qui sont erronées, qui sont fausses. C'est-à-dire, je vous parle juste de la chrétienté ou de l'islam, ils vont vivre des choses et qu'eux, ils vont avoir de la emuna. Surtout l'islam, ils sont capables de faire des choses horribles au nom de cette émouna, parce qu'ils vivent des choses qui sont mauvaises. Mais par rapport à eux, c'est émouna. Ils sont capables de mourir pour ça. Et c'est une émounote tfelot. On appelle ça des fausses émounotes. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas rattachés, ils ne dévoilent pas de manière néhémane. Ils ont une émouna, mais ils ne dévoilent pas de manière néhémane, fidèle. C'est-à-dire qu'ils ont une puissance de Emouna, force divine. Maintenant, regardez, plus simple, pour vous attacher à des choses très simples. Tous les matins, c'est-à-dire, tous les matins, en se réveillant le matin, on dit une phrase.
Modani.
C'est-à-dire, à la fin, il y a marqué Bechemla Rabba.
Emunatecha.
Alors, je suis reconnaissant que tu m'aies redonné la vie, etc., dans mon âme. Bechemla, avec mensuétude, rabba grande, emunatecha ta emuna. Maintenant, venez, on prend au cours numéro 0 par rapport à la emuna, l'agdarana emuna. Si je vous dis, par exemple, la emuna, c'est croire que Dieu existe. On pense que la emuna, c'est du sechel. Puisqu'il y a une créature, il y a un créateur. OK? 99,9% des personnes religieuses pensent ça. 99,999% on pense ça, que la emouna, c'est j'ai la preuve que Dieu existe. Maintenant, regardez. Si on dit ça, il y a un problème. Parce que le mot, la halakha nous dit, il faut mettre un virgule après Bechemla et il faut dire Rabba emunatecha, grande et ta emouna. Ta emouna. Ça va? C'est spécial. Grande est ta emouna. Mais Hachem, il n'a pas de emouna. Puisque le fait d'avoir de la emouna, c'est d'avoir une croyance que Dieu existe. Je crois en Dieu. Je crois que Dieu existe. Donc, Dieu, il croit lui-même.
Il croit en nous.
Non, alors, c'est ce que je veux dire. Après, les chassidim, ils ont été obligés d'expliquer c'est quoi ça être. Mais on va expliquer par rapport au mot Emouna. T'as-t'en? Ta Emouna. Maintenant, il y a une deuxième fois. Quand vous voyez dans les livres traduits, il y a marqué Rabba Emunatera, grande est ta confiance. OK? J'ai aucun problème par rapport au mot confiance. Et de là, justement, il a confiance en nous, il croit en nous, Besed. Mais il ne faut pas tordre le mot, parce que si on retombe en croit en nous, ça veut dire que Emouna, ça veut dire aussi croire. Or, croire, c'est faible, c'est très, très faible. Dans la Amida, dans le Shmona Esrei, dans les 18 bénédictions, on dit Ata Gibor, etc. Mashiva Ruach Humurida Geshem, Mechal Kel Chaim Bechesed. Et on dit Mekayem.
Mekayem.
Non, Mekayem Emunato.
Ah, Mekayem Emunato.
Mishne Afa. Qui réalise sa Emuna à ceux qui dorment dans la poussière. C'est-à-dire? Donc là, on a deux mots qui sont les mêmes mots. Qui sont les mêmes mots. Qu'est-ce que ça veut dire les mêmes mots? C'est Emunatra et Emunato. Ta Emuna et sa Emuna. On parle d'Hachem, les deux. Dans le premier, on dit grande est ta Emuna. Dans le deuxième, on dit Mekayem, qui réalise sa Emuna dans ceux qui dorment dans la poussière.
Dans la poussière.
Les dormeurs de poussière, c'est-à-dire ceux qui sont dans la poussière, c'est-à-dire les morts, à Metim. Quel rapport? Dans les livres en français traduits, vous verrez que quand le matin on se réveille, alors on sait que le mot Emuna veut dire confiance. Grande est ta confiance. Peut-être vous allez tirer de ça, comme vous avez dit, il croit en nous, il a confiance en nous, sinon il ne nous aurait pas permis de revivre. Mais alors on garde ce même mot, qui réalise sa confiance à ceux qui dorment dans la poussière. Alors vous êtes d'accord que ça ne rentre pas? Qui réalise sa confiance. Alors là, dans les livres traduits en français, je ne vais pas faire une critique des livres, ce n'est pas le but. Hein. Le but, c'est comprendre c'est quoi la Emouna. Dans les livres en français, ils sont obligés de traduire que Emunato, ici, c'est sa promesse. Sa promesse. Qui réalise sa promesse à ceux qui dorment dans la poussière. C'est quoi sa promesse? C'est Triata Metim, résurrection des morts. Donc, regardez dans un texte de Tfila, tout simple, on arrive à l'istaber que si on n'a pas la bonne définition du mot Emouna, on ne sait pas quoi penser. Mais Kayem Emunato, c'est sa confiance, sa promesse. Si c'est sa promesse, le matin aussi, Rabba Emunatera, grande est ta promesse. Voilà, une promesse de quoi? En général, au tout début, c'est comme ça que je commençais les cours sur la Emunah.
Gam Kayem Metim Slicharav. Quand on dit Modéani, c'est Be'etzem Kamti Letria.
C'est Nachon Meod. Les Zéani Choter. Les Zéani Rotselagia. Mais Erche Metargemi Metamila, c'est Nachon. Et là, maintenant, vous, Yeshivat Online, comment vous allez traduire Emunatera ve Emunato?
Emunatera.
Rabba Emunatera. Grande et quoi? Emekayem Emunato.
Vous direz réalisation.
Pas seulement. Non. De quoi?
L'existence. Ta création, ton existence.
Ton existence. Je pense que quand il dira Rabba Emunatera, c'est Omer qui nous donne confiance à nous.
Non.
Non.
Dans le Ben Adam qui se réveille, dans la Neshama qui se réveille, lui donne confiance.
Non, il lui donne si c'est confiance, si c'est confiance aussi, mais Kayem qui réalise sa confiance. Tu peux tirer par les cheveux, il a confiance dans les morts. Ils sont morts, mais non, les morts, c'est pire que ça. Il n'y a pas de confiance, il ne vit pas. Il y a plus de, je vous explique, il n'y a plus de rouar. Autant dans la personne qui dort, il n'y a plus de nefesh, mais il y a au moins le rouar. Mais là, il n'y a plus personne. Maintenant, la réponse, elle est très simple. Beethoven. Il est, c'est quoi son tafkid? C'est faire de la Emouna. Comme le Ragdan, écoutez la phrase, comme le Ragdan, ok? Il fait du Rikoud, c'est-à-dire? Le Oman, il fait du Imoun ou de la Emouna. Qu'est-ce qu'on a dit qu'il fait le Oman? L'artiste, il.
Oumanout.
Ok, mais c'est quoi sa force à Omanout? C'est que justement, il fait pénétrer, il réalise, il donne...
Une existence.
Son monde intérieur dans la Omanout. Son monde intérieur, il le met dans l'œuvre. Première définition, dans l'œuvre. Le Oman, c'est-à-dire, il réalise son monde intérieur dans l'œuvre. Son action, là, du Oman, ça s'appelle Emouna. Quand
donc
Beethoven, deux secondes, quand okay. Beethoven il est en train d'inventer par son génie la lettre à Alice, on lui dit qu'est-ce que tu fais ? Je fais de la Emouna. Je fais de la Emouna, je concrétise mon intériorité dans les notes. Il y a fait mode. Maintenant, qu'est-ce que fait le Ein Sof ? À chaque moment du matin où on se réveille, il concrétise son intériorité en nous. Quelle intériorité, de la même façon que comme Beethoven, quelle intériorité ? Toutes sont... Non, seulement l'amour qu'il avait, seulement qu'il, l'amour qu'il avait pour Élise, Beethoven. Et Yudke Vavke, c'est Yudke Vavke. C'est Havaya qui fait rentrer en nous.
Wow.
Donc, Emouna, c'est quoi ? C'est cette action de donner l'existence en nous. Rabba Emouna Techa, Nahon, vous avez bien dit. Félicia, vous avez dit, nous, c'est la même chose. Nahon, c'est la même chose. C'est que tous les matins, Hachem fait cette action de nous donner la Havaya. Ça, ça s'appelle Emouna.
Wow.
Et donc, Mekayem Emunato Lishenafar, qui réalise sa Emouna, c'est-à-dire son action de donner la Havaya, il doit la réaliser parce qu'elle n'est pas encore là. Tu ne peux pas dire Rabba Emouna Techa, maintenant toi, maintenant ta Emouna, elle est là, elle est présente parce que je le vis ça le matin. Mais ça, hein, c'est vrai que c'est une promesse. Donc, Mekayem qui réalise sa Emouna, son action de donner la Havaya, au mort, Lishene Afar.
Quand on dort, on se réveille, on est mort, on revit chaque jour.
Nahon. Et c'est quoi ? C'est la réalisation de la Emouna. Emouna étant une action. Emouna étant une action. C'est pour ça qu'on peut dire ta Emouna. Ce n'est pas qu'il croit que. Ce n'est pas qu'il croit en nous. Non, c'est une concrétisation. C'est une action de retour de la Havaya. Vous m'avez posé une question.
C'est quoi la mort alors ? C'est quoi
Deux secondes, j'arrive à ça. Mais avant, on m'avait posé une extraordinaire question. Au sujet de, on a étudié ça avant Pourim et une personne avait lu la Megillah et elle avait découvert que c'était, il y avait marqué Mordechai, il était Omen et Adassa. Ben, c'est exactement ça. Mm-hmm. Omen, c'est un tuteur. Slicha, mais un tuteur, ça n'a rien à voir. Tuteur, tu me dis un bâton pour tenir l'arbre, etc. En ivrite, on traduit ça en français tuteur. Mais Omen, s'il lui a donné vie. Omen, c'est qu'il lui a donné vie parce qu'il était à la place de ses parents. Ses parents, ils sont Emouna parce qu'ils donnent vie à l'enfant. Et Mordechai, ayant reçu Adassa, ayant reçu Esther, il a éduqué comme sa fille, il lui a donné vie. Il était Omen. Omen voulant dire donner vie.
Rav Partouche, Bekesher le Mekayem Emunato le Yeshenei Afar. Là, vous avez mis la promesse. Effectivement, il y a quelque chose que.
Non, moi, je ne suis pas d'accord avec le mot promesse.
Vous n'êtes pas d'accord.
Non, ça, c'est dérivé. Je suis d'accord en tant que dérivé. Mais le mot, ce n'est pas ça. Le mot, c'est qu'il réalise son action de donner la vie à ceux qui sont morts. Ça, c'est Epshat. Ça, c'est le sens simple. Que c'est une promesse, c'est vrai. Mais Emunato.
Ok, sauf que moi, j'ai toujours ces sentiments très forts. Quand je vois le Yeshnei Afar, pour moi, c'est Yeshnei Hebron. Il nous donne, Akadosh Baruch nous donne la vie, nous sommes hemshech de cette vie.
C'est le Patach, c'est le Patach Eliyahu. Ce que vous dites, c'est la fin du Patach Eliyahu sur Triat Amiti.
Ok.
Mais c'est bien. Maintenant, il y a fait. Maintenant, on va répondre à la question de Yael. Qui n'a pas d'Emouna ? Alors, je ne vous demande de pas répondre parce que vous avez donné la réponse. Qui n'a pas d'Emouna ? Un juif à Tel Aviv qui mange, qui fait à la hache sur la plage le jour de Yom Kippour avec des fruits sur lesquels on fait chez Akol. Il a de l'Emouna ou pas ?
Non.
La démona, il vit.
Nahon.
Il vit.
Nahon. Il vit peut-être mal. C'est sûr qu'il vit mal. Il est peut-être pas néeman à beaucoup de choses. Il est peut-être pas fidèle à la vie qui est en lui. Mais il vit, bêta. Un chayal d'Israël qui a des boucles d'oreilles de partout, qui est anti-Torah, anti-religieux et qui va sur le champ de bataille pour libérer Israël. Il a la Emouna ou pas ?
Oui.
Il a une énorme Emouna.
Bien sûr.
Ça a l'air ? Razak. Alors, qui, je reviens, Qui n'a pas d'émouna? La vache, elle a une émouna?
Non.
La vache, elle n'a pas d'émouna. Parce qu'elle n'a pas de péot. Bon, une vache israélienne, c'est Khalav Israël. La para, elle n'a pas d'émouna?
Oui.
Bien sûr qu'elle a une émouna. C'est vrai, vos têtes, c'est la tête que j'ai fait quand Mori et Rabbi Schwartz Zuckerman nous a dit que la para, elle est ma'amina, la vache, elle est gamma amina, parce qu'elle aussi, elle réalise la havaya. Et regarde, j'ai oublié de dire que le cours est l'irfoua toche à la raf. Tout ce que je vous dis, il n'y a pas un mot que je n'ai pas appris du Rabbi Zuckerman, et là, il a besoin de nos tulotes, parce que malheureusement, il est très malade. Sakadosh Bourou, Ishlachlo, refoua, shelema, sha. Moudazé, yen l'irfoua to.
C'est le rave aussi du rave Ben Arouche.
C'est le rave de tous les rabbanim qui est ici, je crois.
Tous les grands
Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Paraba amina. Parce que kol hove, hove mi havayato itbarach. Ok, écrivez cette phrase.
Para tzadika.
Kol hove, tout existant. Hove. Mi havayato itbarach.
Tout existant.
Vive de son existence à lui ou Ein Sof. Itbarach, qui soit source, qui soit source de minixion. Kol hove hove mi havayato. Tout existe de son existence. C'est-à-dire, rappelez-vous cette fameuse histoire chassidique. L'histoire chassidique, les gens pensent que. Les chassidim, ils disent, les gens pensent, l'amaharet, ils pensent, les l'ignorant pense que pour détruire le monde, Akadosh Baruch Hu, il doit faire un déluge, il doit envoyer, comme sur Sdom Vamora, du soufre, de la grêle, du feu, la bombe atomique, etc., etc. Alors que c'est totalement faux. Pour détruire le monde, il a uniquement le besoin de se retirer. Lorsqu'il se retire, alors il n'y a plus rien, il a fait. Lui, il a voulu donner de sa veille, de faire une action de donner la Havaya. Lui, il n'a pas de Havaya. Lui, il n'a pas de Havaya. Vous ne trompez surtout pas. Lui, il n'a pas d'existence. Lui n'existe pas par l'existence. Lui n'existe pas par l'existence. Ça, quand on veut commencer à s'amuser à parler de Kadosh Bourou, le Sechel, il ne suit plus. Quand tu veux parler de son essence, le Sechel, il ne suit plus. C'est comme si la Joconde, elle veut parler de Leonardo. Elle ne peut pas. Impossible. Red Joconde, en tant que Joconde, tu peux parler de Leonardo, ce qu'il a voulu dévoiler en tant que Joconde, c'est tout. Pas plus que ça. Pas au-delà de toi. Ça va? Chazak. Maintenant, donc, qui n'a pas de Emouna? Le mort. Le mort. Voilà, Bidouk. Et c'est pour ça que la mort, c'est pour ça qu'on va dire que celui qui meurt, donc qui meurt, donc il n'a pas la vaille, il ne dévoile pas la vaille. On va dire que la mort, c'est Avi Avot à Touma. C'est la plus grande des impuretés. Touma vient du mot Atoum, qui veut dire fermé hermétiquement. Fermé hermétiquement, c'est l'impureté. OK? Touma, c'est être impur. Impur, c'est être fermé hermétiquement. Et la question, c'est à quoi? À la Havaya. À la Havaya.
Est-ce qu'on peut dire...
Deux secondes, parce que je vais dire une phrase très dure. À la Havaya, n'achon? La Havaya, n'achon? Quand tu te balades dans l'exil et que tu vois des Juifs, c'est-à-dire? Le Gaon de Vilna, il va dire c'est un cimetière. C'est un cimetière, la Galoute. Mais quoi, les Juifs y vivent? Alors pourquoi c'est un cimetière? Où est-ce qu'elle est la Touma? Au niveau de quoi? Quelle Havaya on n'a pas? Ah, j'ai voulu trop sauter là.
Trop, Israël, du collectif.
Bidouk, Havaya israélite. Ish Yehudi aya Beshushan Abira, ça c'est vrai, il était Yehudi, je vous assure. Ish Yehudi. Yehudi il était. La Havaya israélite, la Havaya en tant qu'Israël, c'est ça qui n'existe pas en Galoute. Et donc la Touma, elle est au niveau d'Israël. L'impureté. Le cimetière de la Galoute, c'est au niveau d'Israël. Au niveau des Yehudis, il fait ce qu'il y a au maximum qu'il peut. Rashi, il n'est pas ta mère, Hazé Shalom. Il fait dans l'impureté générale d'Israël, il fait ce qu'il doit faire. Et la nation, elle est impure. C'est-à-dire, bon, de toute façon, ne vous inquiétez pas, on aura l'occasion de revenir à ça.
Mais, s'il vous plaît, je sais pas, excusez-moi, vous pouvez répéter ce que vous venez de dire.
Je viens de dire que le Gaon de Vilna appelle la galoute, l'exil, quand les Juifs sont en exil, ils appellent ça un cimetière, des bêtes à Gvarot.
D'accord.
C'est-à-dire, comment c'est un cimetière? Un cimetière de quoi? Les Juifs, à l'époque de l'Espagne, c'est pas un cimetière. Rachi, c'est un cimetière. Quand tu dis ça, en général, les gens te disent Rachi, c'est un cimetière. Mais Rachi lui-même, il témoigne de ça. Mais Rachi en tant qu'individu, non. Rachi, c'est une lumière en tant qu'individu. Mais en tant que Havaya, l'existence en tant que nation, alors là, il y a un manque. Il y a une Touma énorme. C'est-à-dire, maintenant.
Ça veut dire que nous n'existons pas, que
la Houma n'existe pas. On n'avait aucune. Attention. Non, on n'avait pas d'Emouna. On n'avait pas d'Emouna dans la nation d'Israël qu'on est en Galoute.
Ok, ça veut dire qu'on...
Et je vais vous, vous dire tout simplement dans quoi, comment ça se dévoile. Ça se dévoile très simplement qu'on nous disait que jamais on a pu se défendre. On a souffert en Galoute. On n'avait aucune confiance en nous. Confiance en nous. Il y avait des Juifs qui se défendaient, mais ils avaient confiance en eux, en eux-mêmes. Parce que c'était Shimon, parce que c'était Reuven, parce que c'était... Regardez Auschwitz, qui c'est qui a défendu le Varsovie, qui c'est qui a défendu le ghetto de Varsovie. Ce n'étaient pas les plus grands sadikim. Parce qu'ils avaient confiance en eux. Mais quand on nous disait chez celle juif, c'est tu dois avoir confiance en quoi? Tu dois avoir une émouna, une certitude de notre grandeur par rapport au niveau de la nation. Et ça, ça n'existait pas. Dans la galoute, on n'a pas de émouna. Dans la galoute, on n'a pas de émouna. On n'a pas de vie, on ne vit pas dans la galoute. C'est vrai? Maintenant, regardez ce que le Zohar. Maintenant, vous allez être choqué. Moi, quand on m'a enseigné ça, et quand, j'étais choqué de voir que des choses du Zohar, quand tu as des connaissances, tu peux comprendre comme ça, c'est qu'on a besoin de les expliquer. Alors, regardez. On a parlé justement du nom du Mekor Achaïm, de la source de notre Havaya, c'est Yudke Vavke. Le Zohar se dit, il y a un secret. Bon, toute notre vie, c'est essayer de connaître Yudke Vavke. C'est-à-dire, toute notre vie, c'est essayer de reconnaître
Yudke Vavke. Il y a un problème de zoom.
Deux secondes. Parce que c'est la caméra, elle fait un zoom automatique. Et des fois, quand je bouge trop, elle ne supporte pas ça. Le Zohar nous dit, ce nom Yudke Vavke, c'est toutes nos connaissances, c'est infini, c'est l'infinité du nom d'Hachem, de connaître, c'est toute notre vie, de connaître ce Yudke Vavke. Nous, on essaye de donner une première définition. Maintenant, regardez qu'est-ce que dit le Zohar. Le Zohar nous dit, ce nom Yudke Vavke, c'est le nom ineffable d'Akadosh Baruch Hu, qu'on n'a pas le droit d'effacer, qu'on n'a pas le droit de prononcer. Une personne qui prononce le nom de Yudke Vavke, En lo chelek le'olam haba, il n'a pas sa part au olam haba. C'est le Shema Meforash, c'est le nom explicite d'Akadosh Baruch Hu. Ne pas confondre avec le nom des 72 lettres, mais il est considéré comme le nom le plus proche d'Akadosh Baruch Hu. Et là, le Kuzari, on verra ça dans Rabbi Yehuda Halevi dans le texte, mais je vous précède ça, il dit Yudke Vavke, c'est comme le prénom de la personne. Comme je vous ai dit, moi j'ai beaucoup de noms, je m'appelle papa, je m'appelle fils, frère, mari, ami, enseignant, j'ai plein de noms. Mais mon nom, mon prénom, ce qui sera le nom le plus proche de ma naissance, c'est Dalet Vav Dalet. Dalet Vav Dalet, c'est le nom le plus proche de mon essence. Et plus je connaîtrai le nom caché de Dalet Vav Dalet, alors je pourrai mieux comprendre qui je suis. Ça va? Mais Yudke Vavke, c'est la même chose. Yudke Vavke, il peut avoir plein de dévoilements de ce Yudke Vavke, mais le nom le plus proche de l'essence, sans parler de l'essence, on ne parle jamais de l'essence. L'essence, il n'y a pas, on ne peut pas parler sur l'essence. Mais le plus proche du dévoilement de son essence, c'est Yudke Vavke. Et le Zohar nous dit, dans le nom Yudke Vavke, même les lettres, elles ont leur importance. Première chose que le Kuzari dira, que Rabbi Yehuda Halevi vient dire, toutes les lettres qui forment le nom Yudke Vavke, ce sont des lettres voyelles. Ok ? Toutes les lettres qui forment le nom Yudke Vavke, ce sont des lettres voyelles. C'est-à-dire, quelle est la différence entre les consonnes et les voyelles ? Les consonnes, c'est à prononcer. Les voyelles, c'est à donner le ton, le sens, l'expression. Et ils vont dire aussi, attendez un problème de musique, et ils vont dire aussi, on a quelque chose de très particulier, c'est que la forme des lettres a aussi son importance. Et le Zohar va nous dévoiler le secret de la forme des lettres. Je vous rappelle les lettres, pour bien comprendre ce que dit le Zohar, c'est un Yud, c'est un Ke, He, lettre He, Vav, et un autre He. Yud, la lettre He, la lettre Vav, la lettre He. Le Zohar nous dit quelles sont les lettres. En fait, nous dit le Zohar, le Vav, c'est un bras. cinq bras tendus. C'est un bras tendu. C'est-à-dire, heureusement que le Rav Ben Arosh ne vient pas après parce qu'il va avoir un peu honte de ce qu'on fait. C'est un bras tendu. Le hé, puisqu'elle est longue, la trousse, c'est comme le bras content. Le hé, c'est la lettre hé, elle est magnifique. Pourquoi ? Parce qu'elle est formée d'un dalet et d'un yud. Et la valeur numérique, c'est 5. Et en fait, on fait la séparation entre les 4 doigts et le yud, c'est le pouce. En fait, c'est une main ouverte. Donc, un bras tendu, un bras qui va vers l'autre et qui ouvre sa main, qui a sa main. Alors, regardez comment je fais la main. Ça va ? Et qu'est-ce qu'il tient dans sa main, hein ? Il tient une pièce. Ça va ? Vous voyez, yud, c'est la pièce. Le yud, là, c'est la pièce, dit le Zohar. Et en fait, c'est un homme qui tend le bras. Dans sa main, il a une pièce qui donne au pauvre. Et le pauvre reçoit sa main. L'autre hé, c'est la main du pauvre. Alors, c'est un Zohar super bien pour les rabbins, hein, parce qu'ils arrivent, ils disent, et donc l'importance de faire la tzedaka, et donc l'importance pour donner aux yeshivot, et il faut donner à toutes les yeshivot, c'est marqué dans le nom de Yud Kevavke, et comme ça, tu as fini le shiur. Non. Maintenant, vous, Yeshivat Online, vous allez me dire, vous avez compris d'abord le truc, c'est très simple. D'abord, le Zohar nous dit, même les lettres, elles ont une signification. Pourquoi un vav aussi long ? C'est comme le bras. Au lieu de rester sur toi, tu t'ouvres à l'autre. Et dans ta main, au lieu de l'utiliser pour ton propre moyen, hein, main, c'est les moyens, c'est la même chose, c'est le même mot, tu prends une pièce pour donner à l'autre. Et le hé, c'est l'expression justement de l'autre de recevoir. Donc, c'est l'action de donner. Yud kevavke représente l'essentiel du Amisraël, le chesed, la tzedaka, le fait de donner. C'est-à-dire, ça, c'est ce que le Zohar dit. Maintenant, vous, Yeshiva Online, vous allez me dire par quoi est représentée la lettre ? Par quoi est représentée la pièce ?
Par le yud.
Par le yud, par le yud. Maintenant, je vais vous poser une question très simple. Je vais vous poser une question très simple. Tout dans le Zohar, c'est des machalim. Tout dans le Zohar, c'est il parle, mais c'est pour le dixième degré. Qu'est-ce que c'est cette pièce-là ?
L'homme. Makom.
Pardon ? Yael, Yael, Ma.
Un écouda et
relatif.
Le début de l'existence.
Ya fait.
Mais
c'est la vie. Origine.
C'est Avaya.
Avaya, la vie, l'existence.
L'existence, comment il nous donne ça ? C'est ça qu'il nous donne. Maintenant, où c'est marqué ça ? Je vais vous dire un truc. Regardez. Maintenant, regardez où c'est marqué. Je vous dis où c'est marqué. Comment on dit. Attendez. Comment on dit. Deux choses d'abord. Pour moi. Comment on dit pour moi ?
Li.
Li. Ah, je suis allé chercher exprès des stylos et c'est pas les bons. Li, c'est pour moi, d'accord ? En moi, comment on dit en moi ?
Bi.
C'est Bibi.
Comment on dit en moi, en moi ?
Bibi.
Voilà, Bibi. Sans politique, on m'a interdit de faire de politique, même si. Bibi. Je vais pas. Bon, le méchant est. Bibi. Maintenant, regardez.
Betori,
Besseder. Maintenant, regardez bien. Comment on dit moi alors ?
Ani.
Non, regardez que c'est marqué.
Non.
Comment on dit moi ?
Anochi.
Libi.
Non ?
I.
Libi. Yud.
Yud. Y'a fait le Yud.
I.
C'est ça. C'est que ça. Pourquoi ? Parce que je te dis li, c'est les, c'est pour.
Mm-hmm.
Li. Les Tel Aviv, je sais pas moi, les Michael, ouais, les David.
Oui, okay.
Pour Yud, c'est moi. Bis, bet, c'est B, en. En Yud, en moi. Donc moi, c'est quoi, c'est Yud. D'accord ? Mais il y a quelqu'un qui a dit. Donc Zayud. Zayud, Zahayim Sheli, Zahavaya Sheli. On a un problème ? C'est quoi le problème ? C'est ce que quelqu'un a dit quand j'ai posé la question, comment on dit moi ? On dit Annie. Annie, d'accord ?
Anou,
c'est
Hachem. Anoufi. Anoufi, c'est Hachem.
Alors, on y va. Comment on dit, je vais vous dire très simple, Khatouli.
Quoi ? C'est pas vos pas.
Mon chat.
Mon chat.
Mon chat. Mon chat. Maintenant, ça, c'est une smichut. Nahon, ça, c'est une smichut. C'est un état construit. Quand j'ouvre Khatouli, quand j'ouvre Khatouli, ça fait E Khatoul Sheli.
E Khatoul Sheli.
E Khatoul Sheli. Le Khatoul qui est à moi. Oui ou non? Mais c'est là. Maintenant, vous allez faire un exercice d'Ulpan. Annie.
Ravani, c'est jeu dans le petit.
Non. En ivrite, sans traduire. Vous savez, on vous a appris à l'Ulpan. Vous avez appris à l'Ulpan. Avant de savoir comprendre le mot, il faut savoir quel temps, quelle forme, quel truc, pour pouvoir que le cerveau, il arrive à le situer dans quelque chose, mettre dans une case. Le cerveau, il marche par des cases. Maintenant, la même chose, sans savoir la traduction. D'abord, ouvrez-moi ce mot. Quand je vous ai ouvert Khatouli, comment vous dites? Comme Khatoul Sheli, Khatouli. An Sheli, Ani. Maintenant, c'est quoi An Sheli? Je vais vous dire ce que c'est An Sheli. Il faut savoir ce que le mot An veut dire. An, c'est l'endroit.
Allez, An.
Exactement. Quand on dit où tu vas, on ne dit pas Efo Ataoler, sauf à Mahan Yehuda. Mais si tu sors un petit peu de la limite de Mahan Yehuda, alors on te dit les An Ataoler. Vers quel endroit? Anna, vers cet endroit et cet endroit. Il y a plein dans le Tanakh. Le mot Anna, An, ça veut dire Makom. Ce qui veut dire que quoi? Ce qui veut dire que quoi? Que le mot Ani.
J'existe. C'est mon endroit.
J'existe.
C'est l'endroit de lui qui se réfère à moi. C'est l'endroit de lui qui se réfère à moi. Et c'est seulement quand moi je suis l'endroit de lui qui se réfère à moi que j'ai le droit de dire Annie. Sinon, j'ai pas le droit de dire Annie. Voilà. C'est seulement quand je suis en droit de lui, en droit, son endroit à lui, qui se réfère à moi, alors j'ai le droit de dire Annie.
Wow.
Si je fais une fausse note, alors je n'ai pas le droit de dire Annie. C'est comme si la lettre à Élise avait fait une fausse note. Il n'y avait pas Beethoven ce soir.
Dans les déviations, je ne suis plus Annie.
Voilà.
Mais Raph, j'ai un problème là. Vous
vous rendez compte là l'importance de l'ivrite? Comment dire, Annie? La reine, Hillel, qui était Anav, il y a un passage dans la Gemara, dans la Masechet Souka, et on ne comprend pas ce qu'il dit. Il arrive à Simcha Bet HaShoeva. Pendant l'époque de Sukkot, tous les soirs, il y a Simcha Bet HaShoeva. On se réjouissait du fait qu'on prenait l'eau du chiloir pour pouvoir faire les oblations d'eau sur le misbère. Quelque chose de très grand. Et ça a éveillé la joie. Hillel, qui était le plus anav. Anvetanuto chez Hillel, l'humilité d'Hillel. Il arrivait à Simcha Bet HaShoeva et il disait Im Ani Kan Hakol Kan. Im Ani Kan Hakol Kan. Le Ritva, il dit Kayadua. Hakol, c'est la Shechina, c'est la présence divine. Mais comment? Alors encore plus, toi, Hillel, tu dis si je suis là, la Shrina, elle est là. Mais parce que si je suis Annie, si je suis la lettre à Élise, Beethoven, il est là ce soir. Si je suis le vrai Dalet Vav Dalet, alors la Shrina, elle est là comme elle a voulu se réaliser dans le Dalet Vav Dalet, mon nom David. Si je suis véritablement, je vois des noms, excusez-moi, je prends des noms, Chana, si je suis véritablement Chana, alors Chet Nunhe, quand je réalise, je suis vraiment son endroit qui se réalise à travers moi. Donc, il n'y a aucune fausse note. Donc, la présence divine est là. Im Ani Kan, Hakol Kan.
Qu'est-ce que ça veut dire Kan? Comme?
Ici.
Comme l'endroit?
Ici. Non, ici.
Peut-être.
Peut-être. Oulai. Oulai, j'ai rien dit. Oulai, peut-être. Kan, ça veut dire ici pour l'instant. Im Ani Kan, Hakol Kan. Et c'est ce qu'on va dire quand on dit justement dans Hoshanot, les Hoshanot, on dit Ani Vahu Oshiana. Ani Vahu Oshiana. Ani Vahu Oshiana. Ani Vahu, c'est Vav He Vav. C'est un nom de nom d'Akadosh Bokhu. Oshiana, sauve-nous. De grâce, sauve-nous. le Shla Akadosh, Arav Horowitz, Shla Akadosh. Il dit, Kayadua, on sait que Ani, c'est un des noms d'Hachem.
Quelle différence il y a entre Kan et Iné? Iné, c'est voici, et Kan, c'est ici.
Kan, c'est ici. L'endroit ici, Kan. Iné, c'est voici, c'est autre chose.
Voici, d'accord.
Monsieur
Adam.
Et on finit sur une chose très simple, mais que c'est une résonance importante. La première question qui nous a été posée à Adam Arishon après avoir fauté, dit le Rav Kook, c'est justement la question Ayeka.
Okay.
Réponse du Rav Kook. Question du Rav Kook. Dans le monde Chabad, on sait, lui, le Rav Kook, de ce côté de sa mère, il est descendant du Tzemar Tzedek. Le Tzemar Tzedek, il disait que où en es-tu ? C'est-à-dire, c'est pas Kadosh Baruch Hu, c'est pas où tu es.
Où on
est. Et là, où en es-tu spirituellement ? Après ta faute, toi, Adam Arishon, et toi, Isha, où est-ce que tu en es spirituellement ? Tu dois faire un Cheshbon Nefesh après cette action, prendre ta responsabilité, où en es-tu ? Et Ayeka. Or, c'est peut-être un remez, mais ce n'est pas le pshat. Le pshat, le sens tout simple du mot Ayeka, Aye voulant dire Efo, Ka, c'est Ha, c'est à toi. Où es-toi ? Le Rav Kook, il traduit de la façon la plus simple. Il dit Efo à Ani Shelcha. Efo à Ani Shelcha. Où est ton Ani ? Après la faute, regarde, non, après la faute, où tu me laisses de la place de me réaliser à travers toi? Parce que toute faute retire la shrina. Toute faute nous empêche de le réaliser. C'est la fausse note. C'est que l'œuvre, elle empêche l'artiste de le dévoiler. L'œuvre se révolte contre l'artiste. C'est-à-dire, après la faute, tu as perdu ton Ani et moi j'ai perdu mon Anne. Et toi, tu n'as plus d'Ani. Parce que j'ai plus d'endroit en toi, tu as perdu ton Ani. Et Adam Arishon, comme dit le Rav Kook, il n'a pas su donner une réponse. Il n'a pas dit Ani Kan. Il ne pouvait pas dire. Avant de dire ça, Et kolcha shamati bagan. Ta voix, je l'ai entendue. Mais réponds à la question. Réponds à la question. Hachem, il te demande où es-tu, dit Ani Kan. Non, ta voix, j'ai entendu. Réponds à la question. De Adam Arishon jusqu'à Noach, il y a eu 10 générations. Personne n'a répondu à la question. De Noach jusqu'à Abraham, personne n'a répondu à la question. Vayomer Hachem el Avram. Vayomer Noach. Avram. Vayomer Ineni.
Ineni.
C'est quoi Ineni? Ine Ani. Et c'est parce que Avram, c'était le premier à comprendre que l'être était celui qui était l'endroit du Ensof. Qu'à partir de Avram peut naître celui qui va être l'acte, le vecteur direct de Akadosh Baruch Hu sur terre, de Israël, de Yashar Ed. D'avoir retrouvé ce Ani, d'avoir retrouvé ce l'être. Le Seder ?
Hazak ou Baruch ?
Wow, Hazak.
Ça veut dire, j'ai une question, ça veut dire que c'est seulement le peuple d'Israël qui est Neni ou c'est chaque homme sur la terre?
Uniquement Israël. Très bonne question.
Ineni, c'est quoi exactement Ineni?
C'est deux mots qui veut dire Iné, voici, Ani, moi.
Me voici.
Me voici, c'est-à-dire voici mon Ani, ça y est. C'est-à-dire tu m'appelles, je compris. Appeler quelqu'un, c'est pour lui donner une fonction, il va lui donner une mission. Il lui dit je suis présent, c'est-à-dire moi, mon être, j'ai compris, le Yud, je suis rien du tout. Mais je veux que tout mon être dévoile toi.
Est-ce que Ineni a pu exister qu'après à Pessah?
Non, c'est bien avant, c'est Avraham Avinu. Avraham Avinu.
Non, c'est avant.
Mais c'est grâce à Ineni qu'il a compris qu'on pouvait créer le peuple d'Israël à partir d'Avraham. C'est là?
Ok.
Shavua Tov.
שבוע טוב, תודה רבה, תודה רבה.
חודש טוב ומבורך, ראש חודש מבורך, בעזרת השם לכולם, לכל עם ישראל. רפואה שלמה, אמן.
אמן, אמן, אמן.
אמן, 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 אמן.